président de l'association de Notre-Dame de Nouillan qui discrètement se tient au fond de l'église. C'est le monsieur qui habite la maison verte à côté. Voilà. Alors on peut le remercier, tout était prêt, tout était allumé, tout était propre. Voilà. Alors on vous remercie beaucoup. Bon, je t'importe que le deuxième enseignement aujourd'hui soit difficile hein, vu les conditions atmosphériques. Alors, je vois au moins que le corbillard sert à faire pire. C'est pour toi. Tous les bonjours sont sur le corbillard. Voilà, donc je voudrais continuer ce que nous avions commencé hier, qui comme ça faisait 30 minutes, je me suis arrêté. Je voulais, en ce moment, je suis branché sur une carmélite qui vient d'être canonisée, Marianne, Marie de Jésus crucifié, une histoire absolument incroyable. Quand elle a été égorgée par un musulman, parce qu'elle ne voulait pas se convertir, elle a été miraculeusement guérie par la Vierge Marie. Et elle a porté toute sa vie
un collier,
la cicatrice. Et ce qu'il a tout, donc c'est Marie. Elle ne savait pas qui c'était, une dame en bleu, très jolie, qui l'a soignée, et voilà. Et donc, depuis dans les villes, elle est rentrée au Carmel de Pau. Elle avait de nombreuses communications du Christ. Elle a été une possession diabolique de 40 jours. Et c'est très intéressant, non pas par les phénomènes extraordinaires, mais par le fait que le démon, les démons, Satan est obligé de dire la vérité. Et la façon dont il s'y prend pour que les gens perdent la foi, abandonnent leur vie religieuse, etc. Il est tellement couillon en même temps qu'il ne peut pas s'empêcher, ça le glorifie, quoi, de dire le mal qu'il fait. Alors, il y a aussi les communications du Christ, et à propos de la foi, c'est intéressant parce qu'elle a beaucoup souffert toute sa vie, elle a toujours été extrêmement joyeuse, et grâce à elle, qu'a été fondé le Carmel de Mangalore, elle savait lire et écrire, qu'a été fondé le Carmel de Mangalore en Inde, et le Carmel de Bethléem. Alors, voilà, le Christ lui parlait souvent, donc maintenant je m'assois,
et je vous la cite.
Donc elle disait à Jésus, « Venez, venez ma consolation, ma joie, venez ma paix, ma force et ma lumière, venez éclairez-moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. » C'est très intéressant, ça montre combien elle était pauvre. Une goutte de vous suffit pour moi pour me montrer Jésus tel qu'il est. Jésus a dit que vous iriez aux ignorants. Je suis la première des ignorants. Et nous ne nous prenons pas pour des personnes extraordinaires. Alors voici maintenant, et c'est très intéressant, soyez très attentifs, une communication du Christ a été répétée, ce que le Christ lui disait, et les sœurs de Pau étaient là en train de prendre des notes. Le monde, c'est intéressant, on est au 19e siècle. Hein. On est vers les années de la guerre de 1870. Le monde et les communautés religieuses cherchent des nouveautés et des dévotions et négligent la véritable dévotion au Saint-Esprit. Et on va toujours chercher des trucs, des neuvaines particulières, des trucs extraordinaires, comme si dans un truc particulier, il y avait quelque chose de quasiment magique. Donc là, elle dit qu'on oublie, c'est la dévotion à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, parce que c'est une fête, c'est la fête de Saint-Barthélemy, mais il y a un jour où nous n'aurons pas de... ça sera, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, profiterons, on dira une messe à l'Esprit Saint. Donc, c'est pour cela qu'il y a des erreurs. La désunion dans les communautés, parce qu'on l'a vu hier, c'est l'Esprit Saint qui fait la communion entre nous, l'Esprit de Dieu. Qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas la lumière, on n'appelle pas la lumière comme elle devrait être appelée, et c'est elle qui fait connaître la vérité. L'Esprit Saint nous fait connaître la vérité. On le néglige même, dit-elle, à l'époque, déjà dans les séminaires. Toute personne dans le monde ou dans les communautés qui invoquera l'Esprit Saint et aura sa dévotion ne mourra pas dans l'erreur. Tout prêtre qui prêchera cette dévotion recevra la lumière pendant qu'il en parle aux autres. Alors, je vous ai mis sur votre thème, je vous ai fait mettre par l'intermédiaire de tous ceux et celles qui préparent avec tant de soin et d'amour ce pèlerinage, cette petite prière devant. Esprit Saint, inspirez-moi, amour de Dieu, consumez-moi, au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi, avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal et de toute illusion, de tout danger, protégez-moi. Vous l'avez là. C'est toi-même qui l'as mis. Alors donc, cela nous amène à voir le troisième chapitre, qui est livre de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, vous le savez, que nous avons reçu le jour même du baptême. Et souvent, nous n'en faisons pas grand-chose. Nous ne blandons rien avec. Hein. Alors, il ne se produit rien. Alors, à partir de ces suppliques sur l'Esprit Saint, c'est incroyable, hein, cette fille qui savait ni lire ni écrire, c'est arrivé à Léon XIII. Et Léon XIII, du coup, a écrit une encyclique. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très savant pour faire de grandes choses. Il suffit d'être uni à Dieu et par l'intermédiaire de son esprit. Alors, il écrira dans cette encyclique, « Il est l'esprit d'adoption des fils par lequel nous crions Abba, Père. » On ne peut pas dire le « Notre Père » dans le fond, au fond du cœur, si on n'a pas l'esprit. C'est lui qui répand dans les cœurs la suavité de l'amour paternel. Ce même esprit nous fait comprendre que nous sommes fils de Dieu. Par lui, le Christ a été conçu dans la sainteté pour être le fils naturel de Dieu, et les autres sont sanctifiés pour devenir fils adoptifs de Dieu. Ce que je vous disais, fils adoptif. Ainsi l'amour, mais l'amour incréé, puisqu'éternel, nous sommes des êtres créés, Dieu n'est pas créé, il a toujours été, il sera toujours. Il veut nous faire participer justement à cette vie. Produit une régénération spirituelle en chacun de nous, bien supérieure à ce qui pourrait se faire dans la nature. Voilà. Et il poursuit. Cette régénération et rénovation commence pour l'homme au baptême. Puisque c'est au baptême que nous recevons cet Esprit Saint. En ce sacrement, l'âme se dépouille de l'esprit impur que nous avions et est pénétré pour la première fois de l'Esprit Saint qui la rend semblable à lui. Ce qui est né de l'Esprit, c'est Esprit. Ce même Esprit se donne ensuite dans la confirmation. Voilà, c'est à lui que les martyrs et les vierges ont bu leur triomphe. Ce n'est jamais suivant notre propre force que nous pouvons faire quelque chose. C'est uniquement avec cette force de l'esprit. Vous voyez, comme elle disait elle-même, je suis ignorante. Comme dit Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne m'appuie pas sur ma force propre, mais je m'appuie sur l'Esprit Saint. Et entre parenthèses, la volonté qui nous est donnée, ce n'est pas la volonté de faire, parce que ça ne dépasse pas nos limites à comprendre et à saisir les choses, c'est la volonté de se laisser faire par Dieu. Vous avez annoncé, nous y arriverons, l'obéissance. Si on n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, ben, au lieu de bâtir l'Église, nous la démolissons. Voilà, alors quelque chose qui est très important, c'est que donc, l'Esprit que nous avons reçu est en capacité, il n'attend que ça, de nous donner la joie de Dieu. Et si vous y réfléchissez, cet Esprit nous est donné à travers donc les sacrements. Et où nous sont donnés les sacrements? Dans l'Église. Et qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est le corps du Christ. Donc il n'y a uniquement dans son corps que diffuse son esprit, et cet esprit qui nous donne la capacité, si nous l'accueillons, de devenir effectivement enfant de Dieu, fils adoptif du Père, frère du Christ, etc. Et donc, vous voyez, s'il n'y avait pas l'Église, s'il n'y avait pas le corps du Christ, peu importe, hein, souvent nous jugeons l'Église de l'extérieur à travers les prêtres ou les chrétiens qui se comportent mal, mais l'Église en elle-même est le corps du Christ, ce qui doit le faire souffrir, du reste. Et donc, dans le corps du Christ, nous est donnée cette chose ahurissante, à savoir le même esprit qui s'échange entre le Père et le Fils. Il ne nous a pas donné un truc à moitié, il nous a donné lui-même, son propre esprit d'amour, et donc c'est sa propre joie divine. Et c'est nous qui, dans le fond, n'avons pas une foi suffisante, et du coup, nous ne rencontrons pas cette joie de Dieu. Donc, sans l'Église, c'est-à-dire sans le corps du Christ, pas de sacrement, sans le sacrement, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il peut passer autrement. Mais il a voulu que ça passe à travers ce que sont les sacrements, c'est-à-dire à la fois, lorsqu'on voit un sacrement, il y a un signe extérieur pour que notre être de chair comprenne bien, mais ce qui est derrière ce signe, c'est une réalité transcendante qui nous dépasse complètement et qui veut nous transformer en Dieu. Donc, l'intérêt d'être accueillant du don de Dieu. Une autre chose aussi, puisque nous parlons de l'esprit qui est donné dans les sacrements, un mot qui est souvent galvaudé, on dit de quelqu'un « obéit c'est un spirituel ». Ça veut dire c'est un être éthéré qui dit des paroles mielleuses, qui... voilà. Mais vous êtes tous des êtres spirituels, puisque vous avez tous reçu le baptême. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est des êtres éthérés. Et que peut-être ceux qui semblent le plus spirituels sont ceux qui le sont le moins. Parce qu'ils font beaucoup de simagrées, de signes comme ça extérieurs. Mais je crois que quelqu'un qui a reçu l'esprit, ben, nous sommes en capacité de devenir des êtres très intérieurs. Vous comprenez? Parce qu'il y a une présence en nous. Et pas n'importe quelle présence. C'est cette présence d'amour de Dieu, cette présence de la vie de Dieu, cette joie de Dieu. Et je pense que plus nous sommes conscients qu'il y a cette présence de Dieu en nous, par son esprit, plus nous serons des êtres de silence. Sinon, on essaye de combler souvent par du bruit, par du baratin. Mais voyez-vous, prenez une personne amoureuse, si elle est amoureuse, ça va bras dessus, on ne dit rien, on est bien ensemble. Et voilà, si nous sommes conscients de cette présence extraordinaire de l'Esprit de Dieu en nous, et donc à travers l'Esprit du Père et du Fils, hein, si quelqu'un ouvre la porte, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous y ferons notre demeure, et notre Esprit avec lui, avec nous, dans le fond. Donc, hein, si nous sommes accueillants, ben, nous avons cette présence de la Trinité au plus profond de nous-mêmes. Et cela, hein, depuis le baptême. Donc, il y a toute une histoire des sacrements, les trois sacrements de l'initiation chrétienne qui, petit à petit, vont nous donner toute la profondeur de l'esprit. Et les sacrements de l'initiation chrétienne sont au nombre de trois, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Le baptême, bien, c'est le dépôt en nous de l'Esprit Saint. Nous sommes marqués de l'Esprit. C'est un sceau. On emploie parfois le mot, hein, pour expliquer aux gamins, au baptême. Voilà, c'est le sceau indélébile au fer rouge qui était mis sur le dos des soldats de l'armée romaine. Donc si on était déserteur, on se faisait mettre torse nu. Je dis, ben oui, t'appartiens à l'empereur. Après, c'est... il devait y avoir des représailles. Voilà, donc, je vous cite un personnage que vous ne connaissez pas, certainement pas, c'est Saint Grégoire de Nice, on est au 4e siècle. Ça se situe en Turquie actuelle, en Cappadoce, qui a été un milieu chrétien extrêmement stimulant. C'est là qu'il y a eu Saint Basile, Il était copain avec Saint Basile. Donc tous les moines orthodoxes sont des moines basiliens à l'heure actuelle. Oui, il y a eu Saint Grégoire de Nazianze qui était le frère de Saint Basile. Et voilà, il y a tout un noyau chrétien extrêmement fervent. Et c'est lui qui donc nous dit ces choses-là. La vie spirituelle est d'une part totalement dépendante de la vie divine. Et nous recevons la vie divine, donc, possédée par l'Église, qui est son corps, qui la communique par les sacrements, et d'autre part, c'est important, de notre liberté de nous tourner vers Dieu. Si nous n'accueillons pas, les sacrements ne servent à rien. Ça reste uniquement des gestes extérieurs, et on ne sait plus trop pourquoi on les fait. Et donc, d'une part, Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », et sans nous, il ne peut rien faire. Mais il n'attend qu'une chose, c'est nous donner la plénitude de la vie divine, et donc, vous le comprenez à travers ça, toute la joie. Alors, le premier, le baptême, c'est vraiment une renaissance en nous. C'est quelque chose qui nous fait renaître, et renaître à la vie divine. Et c'est tout le passage, vous savez, au début de l'évangile de Saint Jean, quand Nicodème va voir Jésus de nuit, parce qu'il a peur des Juifs, lui qui fait partie du Sanhédrin, il en a peur, mais il a compris qu'il y avait quelque chose avec Jésus, et Jésus lui dit, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume des cieux. Si on ne naît pas véritablement de l'Esprit, si nous ne sommes pas en capacité, par l'Esprit qui nous est donné, de rentrer en communication avec celui qui nous appelle dans sa vie, eh bien, nous n'y entrerons pas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Voyez, il comprend au sens littéral. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, le baptême, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire que celui qui est né de l'esprit, véritablement, sa vie n'est plus programmable. Évidemment, on peut programmer son métier, avoir une maison pour ses enfants, des métiers pour les enfants, mais sa vie en Dieu, il ne sait pas du tout où il va être amené. Et une chose est certaine, si on se livre à l'esprit, notre vie est infiniment plus riche que ce que nous avions programmé. Et donc, étant donné qu'elle est infiniment plus riche au niveau événement, au niveau rencontre avec Dieu, ben, ça sera source de nouveau d'une joie profonde. Alors, quand est-ce que nous sommes, le baptême est-il accompli dans une vie? Nous recevons le baptême un jour, mais le sacrement, la grâce baptismale, va mettre une vie entière à se développer en nous. Si vous prenez la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 3:2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que au ciel, nous serons semblables à Dieu, et donc cette similitude, cette conformité, devenir Dieu participant de la nature divine, c'est ce que contient déjà le baptême. Donc vous comprendrez facilement que où nous en sommes dans notre vie, le baptême n'est pas totalement réalisé. Il est en voie de réalisation. D'où l'importance dans notre vie de nous laisser faire par l'Esprit. De façon à ce que cette grâce baptismale puisse se déployer totalement. Vous voyez, c'est pas de la magie. Si c'était de la magie, pof, on reçoit le baptême, on est saint. Mais il fait appel à notre bonne volonté, à notre désir de nous offrir, de nous ouvrir à lui, de façon à ce qu'il accomplisse cette transformation qui nous dépasse totalement. Et renaître au Saint-Esprit en cette vie consiste en ce qu'une âme vienne à être très semblable à Dieu en pureté, sans avoir en elle aucun mélange d'imperfection. Et ainsi peut se faire une pure transformation par participation. Ça, c'est Jean de la Croix. C'est chez nous. Donc voilà ce que contient le baptême. Alors, donc si nous n'accueillons pas le don de l'Esprit, si nous n'acceptons pas de nous convertir, c'est notre liberté. Ça, il ne peut rien faire. il nous garde libres. Eh bien, si nous acceptons cela, eh bien, il nous transforme en lui-même. Ce qui faisait dire, alors, à un auteur ancien, aussi, mais qui est un moine, cette fois-ci, à la même époque, au IVe siècle, en Égypte, si donc quelqu'un n'a pas reçu de Dieu la grâce, s'il n'a pas espéré et obtenu, donc, le déploiement de l'Esprit Saint en lui, il a rendu vain le dessein de Dieu, de nous sauver, et renier en action tout ce qui est dit dans les Écritures. Voilà, ce qui lui faisait dire, la phrase est courte et abrupte, sans la conversion, le baptême est nul. Oui, si c'était de la magie, hein, on fait ses gestes, puis après c'est fini. Non, ce n'est pas réalisé, ça n'a pas commencé à être réalisé. Tout, vous voyez, c'est le paquet cadeau, mais si on l'ouvre pas, ça sert à rien. Nous n'aurons jamais le cadeau. Alors, si nous acceptons de nous convertir, petit à petit, la grâce se déploie, la joie de Dieu arrive, et nous comprenons de mieux en mieux qui est Dieu, sinon ça nous reste extérieur. Voilà pourquoi les anciens appelaient cela une illumination. J'ai compris, enfin je comprends. Mais comme Dieu est sans limite, nous n'aurons jamais fini de comprendre. Il n'y a pas que nous. J'en parlerai tout à l'heure à l'homélie. Les anges aussi. Les anges aussi sont dans l'admiration et découvrent tous les jours quelque chose d'extraordinaire en Dieu. Le dernier sacrement, l'Eucharistie. L'Eucharistie, et je vous parlerai de la confirmation après parce qu'elle est intermédiaire, mais le but c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est quelque chose d'absolument fou. C'est le corps du Christ qui pénètre en nous et il y a un mystère très profond d'union. C'est un corps qui pénètre dans le mien. L'union entre l'homme et la femme n'est qu'une image d'une pénétration encore plus profonde. C'est le corps entier du Christ qui pénètre en moi et qui me transforme en lui-même. Voilà pourquoi, suite au sacrement de l'Eucharistie, certains saints sont rentrés dans ce qu'ils ont appelé, et vous voyez, c'est très symbolique de l'union, un mariage spirituel. C'est-à-dire une union définitive avec Jésus, de laquelle ils ne peuvent plus choisir. Ils sont unis définitivement. Si vous voulez, ça anticipe la vie béatifique. Et dans cette union avec le Christ, le plus spectaculaire, je vois, c'est chez nous, parce que je connais bien le Carmel, forcément. J'aime bien. Thérèse d'Avila aimait les grands morceaux d'hostie. Vous voyez, le côté sensible. Il nous faut une grande hostie. Alors Jean de la Croix, qui ce jour-là célébrait la messe au couvent à Lila, au couvent de l'Incarnation, il a fait exprès de lui en donner un tout petit morceau. Alors, premier mouvement, Madame un peu vexée. Et puis à ce moment-là, le Christ pénètre en elle et s'unit à elle. Et lui dit, à partir de ce jour-là, tu es mon épouse. Mon honneur est ton honneur et ton honneur est le mien. Tout ce qui est à l'époux est à l'épouse. Et comme cadeau de noces, il n'y a pas donné une bagouze avec un gros brillant, mais il lui a offert un clou de la croix. La manifestation de son trop grand amour pour les hommes, à travers lesquels il nous a donné ce sang qui permet de nous unir à lui. Vous voyez tous les symboles qui sont dessous. Bon, c'est pas une belle robe nuptiale, c'est un clou de la passion, un clou de la croix. Alors ça vous fait comprendre ça, ce qu'est l'Eucharistie, et à travers ce don extraordinaire de nous unir à lui. Et c'est vraiment le sacrement qui, par excellence, est le sacrement transformant, qui nous transforme en Dieu, qui nous fait participer à sa propre vie. Et alors là, évidemment, les personnes ne se tiennent plus en place. Elles sont prises par cette ardeur, on parlait du feu hier, elles sont prises par cette ardeur de Dieu qui les consume. Et alors, elles, des mots qui sont du vocabulaire ancien, ces personnes sont faites Dieu. Alors, un mot, ça s'appelle une théopoïèse, mais tout le monde connaît l'hématopoïèse à travers le théo. C'est la contraction, le sigle pour le mot de l'hématopoïèse. Hein. Le théo du Tour de France. C'est faire du sang. Quoi. On est un théodidacte, on est enseigné par Dieu. On entre dans la connaissance de Dieu, une théognosia. Voyez, tous ces mots traduisent vraiment que cette union profonde de la personne avec Dieu. Alors, entre les deux, nous recevons le sacrement de confirmation. Dans le sacrement de confirmation, la grâce de l'Esprit qui est contenue dans le sacrement de confirmation nous permet, puisqu'il y a eu le baptême précédemment, de mieux comprendre, d'être encore plus illuminé, on parlait de l'illumination dans le baptême, c'est-à-dire qu'on comprend de mieux en mieux la profondeur de Dieu. Et en par voie de conséquence, comprenant qui est Dieu, étant déjà bien enflammé de Dieu, ben je peux en parler. Et je peux en parler comme Jérémie, parce qu'il y a ce feu qui je n'arrive pas à contenir en moi. Et méfions-nous, puisque dans l'Apocalypse, Dieu dit « Je vomis les tièdes ». Et nous recevons l'ardeur du feu en nous, baptême, confirmation, et donc ultimement l'Eucharistie. Voilà, alors cet esprit que nous recevons, et si nous en vivons, nous donne la joie, cette joie est communicative, et l'esprit va à ce moment-là bâtir le corps du Christ. Ça fait combien de temps hein?
Je ne sais pas.
Bon, je ne peux pas trop prolonger.
28.
28, hein. Voilà, alors, donc en même temps, cet esprit, peut-être c'est important que je vous le dise quand même, s'il nous donne... Revenons au baptême. Le baptême nous purifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance de cet esprit chasse les ténèbres qui sont en nous. Toujours pareil, si nous accueillons. Donc, lorsque les ténèbres sont chassées en nous, lorsque nous avons mal à une dent, si on nous l'arrache, on a encore plus mal sur le moment, la purification en nous, ce qu'il va extraire de nous, qui n'est pas conforme à son amour, ça va nous faire souffrir. C'est important parce que nous ne pouvons aller vers cette joie de Dieu sans faire l'économie de souffrance en nous, de choses qui vont nous faire crier intérieurement. Alors que le monde moderne cherche un monde qui est totalement aseptisé, sans souffrance, sans rien. Ce qui est une illusion parce que on rencontre des souffrances mais qui ne sont pas toujours des souffrances purificatrices. Toujours est-il, on l'a abordé hier, c'est parfois des souffrances qui nous permettent de rentrer en nous-mêmes et de nous dire « La vie que je menais, c'était pas ça, il faudrait peut-être que je m'ouvre à autre chose. »